On a pas un château d'hôtes, le centre, c'est plus Abraham Avinu. Désormais, le centre d'intérêt, c'est Yitzhak Avinu. La Torah, elle va beaucoup moins parler de Yitzhak qu'elle ne parle d'Abraham. Elle a aussi encore plus de Yaakov. Mais néanmoins, Yitzhak va jouer un rôle, Yitzhak et Rivka vont jouer un rôle fondamental. On va voir pourquoi et comment. D'abord, la parashah commence par dire que Yitzhak est vraiment le fils d'Abraham. Parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi le père de Yitzhak, c'était Avimelech. Mais Avimelech n'est pas Sarah. Donc, Hachem a fait en sorte que les visages de Yitzhak et d'Abraham étaient identiques. Quand on dit qu'il est le fils d'Abraham, ça veut dire que, bien sûr, il a continué le travail d'Abraham. Mais, ici, on nous apprend quelque chose de très important dans cette paracha. C'est que chacun a des caractéristiques et que chacun doit servir Hachem à sa manière. Il ne s'agit pas de copier la manière de quelqu'un d'autre, même pas la manière de ses parents. Il y a des gens qui pensent qu'effectivement, il faut copier les parents. Copier complètement. D'abord, c'est même pas possible. En vérité, les circonstances sont jamais telles qu'on peut vraiment copier. Et puis, c'est pas ça qui nous est vraiment demandé. Mais ça veut pas dire que on ne s'inspire pas et qu'on continue pas le travail. C'est qu'il va falloir apporter quelque chose de spécifique, de singulier. Alors, on voit dans la paracha que, à un moment donné, Yitzhak creuse des puits. Les puits qu'il creuse sont les puits que Abraham avait creusés. Donc, on voit bien qu'il fait la même chose que son père. Bon, alors les circonstances ont changé. C'est que les puits d'Abraham ont été bouchés par les habitants des Cananéens en question. Ça veut dire que ces gens-là sont tellement idiots, en fait, qu'on leur met à disposition des puits. C'est fondamental, les puits. Mais ils les bouchent. Pourquoi il les bouche? Il ne voulait pas reconnaître qu'il ses puits, il les devait à Abraham. Donc quand Abraham a tourné le dos, quand Abraham n'était plus là pour les défendre, en quelque sorte, ses puits, des puits du vivant d'Abraham, ils l'ont utilisé, les puits. Mais la vérité, c'est que les puits du vivant d'Abraham, ils étaient d'accès gratuit. Yitzhak, il a essayé de recreuser les mêmes puits. Et les gens ont dit, mais non, ces puits sont à nous. Bon, il n'a pas voulu se battre avec eux. Il est allé plus loin, il a recreusé, ils ont même scénario, jusqu'à ce qu'il arrive à creuser un puits qui n'est pas contesté. Les puits Yitzhak creuse, il ne les met pas gratuitement à disposition des gens. Il faut payer. Donc lui, on a l'habitude de dire, bon, Abraham, c'est le chesed, et lui, c'est la gvoura, c'est la force, la puissance. Il va s'imposer. Vous voulez profiter des puits? Le fait de payer, ça fait toute la différence en réalité. On aura une autre situation plus tard dans laquelle il y aura aussi cette histoire de cette différence entre la situation où on paye, qui change complètement les choses. C'est au moment de Makat Dam, au moment de la plaie du sang. Les Égyptiens, quand ils puisent de l'eau, ils boivent du sang. Et les Juifs, eux, ils puisent de l'eau, ils boivent de l'eau. Et si un Juif donne son verre à un Égyptien, même s'ils boivent en même temps, ils ont deux pailles. Il y en a un qui boit de l'eau, l'autre boit du sang. Par contre, s'ils achètent l'eau des Juifs, l'eau reste de l'eau. C'est la Havdalah, la différence qu'il y a, qui est marquée entre les Bnei Israël et les autres. C'est important de marquer la différence. Alors, cette singularité que chacun d'entre nous doit avoir développé pour servir Hachem, c'est justement que pour servir Hachem, il faut toute la diversité des comportements, des caractéristiques de ceux qui servent. Donc la façon de servir Hachem, elle doit être différente, de sorte qu'on balaye tout le spectre, tout l'ensemble des possibilités de servir Hachem. Dans Michelet, Shlomo HaMelech dit Chanoch l'anar al pidarko, éduque l'enfant selon sa voie, son derech à lui. Alors on entend vraiment dans ce verset que l'enfant il a un derech à lui. Et il s'agit pas du tout d'éduquer l'enfant dans mon derech. Je dois éduquer l'enfant, dit Shlomo HaMelech, selon son derech à lui. Donc ça implique qu'on fasse une recherche pour savoir quel est son derech. Mais la première personne à éduquer, avant d'éduquer son enfant, c'est soi-même. Donc, il faut aussi, pour soi-même, faire une recherche pour savoir quel est mon derech à moi. Le derech, ça veut dire quelle est ma spécificité? Comment est-ce que je peux vraiment, en étant moi-même, complètement, pleinement moi-même, comment est-ce que je peux servir Hachem? Ça nécessite tout un travail d'introspection, de connaissance de soi, et ça se fait pas comme ça, c'est pas un truc qu'on fait bin Laila en une nuit ou en une semaine. Ça nécessite un véritable approfondissement, et peut-être d'ailleurs même que la caractéristique de quelqu'un est une caractéristique évolutive. Peut-être que on est comme ceci dans sa jeunesse, on est un peu différent dans une autre tranche de vie, etc. Et on a des qualités différentes selon les tranches de vie dans lesquelles on est. Et donc, on doit servir Hachem à chaque fois avec la spécificité de sa tranche de vie. C'est ça le travail. Si on se met à copier, ben on n'est pas soi-même. Donc, on peut presque dire Hachem, il n'a pas besoin d'une copie, il a l'original. Il n'a pas besoin qu'on copie. Mais, parce qu'il s'agit de tout un travail de transmission, etc., il faut recevoir, développer ça. C'est comme si on allait relire ce qu'on nous a donné, recreuser les puits à ma manière. Chacun à sa manière. servir Hachem de façon originale, de façon spécifique. On nous dit tout de suite que les avot, les imaot, à part Léa, sont stériles. C'est marqué clairement ici que Rivka est stérile. Il y a des chazal qui disent que Yitzhak l'était aussi. Plus exactement, on explique un petit peu différemment la situation de Yitzhak. Yitzhak, on dit que sa neshama était une neshama féminine. En d'autres termes, il ne pouvait pas. Il était stérile en tant qu'homme parce que sa neshama était féminine. Mais sa neshama, elle a changé avec la Akeda. À la Akeda, il a eu une neshama masculine. Donc lui, il va être capable effectivement d'avoir des enfants, mais Rivka, non. Alors, Yitzhak va prier pour Rivka. Chazal disent, évidemment, Rivka prie aussi. Il prie pour essayer d'obtenir un enfant malgré l'apparente stérilité de Rivka. Et ça marche. La prière est efficace. Et tout de suite, on voit dans le texte que c'est la prière d'Yitzhak qui a été exaucée et pas celle de Rivka. Et là, Chazal disent, ils apprennent la leçon. Qu'est-ce que c'est la leçon? La leçon, c'est que, visiblement, la prière d'un tzaddik ben tzaddik est plus efficace que la prière d'une tzaddeket bat racha. Yitzhak qui est tzaddik ben tzaddik, et Rivka qui est tzaddeket bat racha. Et or, en vérité, nous, on est, je pense que vous non plus, on n'est vraiment pas d'accord. On n'est pas d'accord parce que, a priori, Rivka a bien plus de mérite que Yitzhak. Yitzhak, il est né dans une famille où on lui a servi sur un plateau de Torah. Enfin, bon, voilà, service de la. Donc, il n'a pas tellement de mérite. Rivka, elle est née dans une maison d'idolâtres, de roublards, de menteurs, etc. Et bon, elle a réussi à s'arracher à cette espèce de déterminisme, en fait, qui aurait pu effectivement la frapper. Elle s'est arrachée. Elle a plus de mérite. Donc, c'est quoi cette histoire? Ça veut dire que pourquoi tout à coup la prière d'un tzaddik, il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que la prière d'un tzaddik ben tzaddik est plus efficace que la prière d'un tzaddik ben tzaddiket bat racha? C'est une question. Il y a une deuxième question qui est un peu plus technique, qui est que je vous ai dit la chose comme on la lit d'ordinaire, mais si vous voulez bien regarder le texte, le texte ne dit pas vraiment ça. Le texte dit « Ena doma tfilat tzadik ben tzadik le tfilat tzadik ben racha. » Vayater lo, je pense. C'est Vayater, il a prié et Hachem lui a répondu. Donc, Rashi ramène cette histoire. Et en fait, si on tient vraiment, si on s'en tient à ce qui est écrit, qu'est-ce qui est écrit? En français, c'est écrit, la prière du Tzadik ben Tzadik n'est pas comparable à la prière du Tzadik ben Racha. Quand on dit que A n'est pas comparable à B, la référence, c'est quoi? C'est B. A n'est pas comparable à B. Donc, la bonne prière, c'est la prière de Rivka, la prière de Sadik ben Racha. Et on dit, c'est tellement extraordinaire, cette prière-là, que l'autre lui arrive même pas à la cheville. Elle a Doma, elle lui ressemble pas. Donc, c'est étrange. Ça veut dire, quand on dit que quelque chose n'est pas comparable, ça veut dire que la différence n'est pas quantitative, elle est qualitative. Donc la qualité de la prière de Rivka est complètement différente de la qualité de la prière d'Yitzhak. Radicalement différente, mais pour le mieux, le meilleur. Et ce n'est pas du tout comme ça qu'on l'entend. D'habitude, quand les gens disent, comme je vous ai expliqué, qu'ils louent comme si on disait la prière. Comme si la phrase disait la prière de Yitzhak est supérieure à la prière de Rivka, mais c'est pas ce qui est écrit. Bon, alors, ce qu'on peut essayer de dire dans ce sens-là, me semble-t-il, c'est un peu la chose suivante. En français, on dirait Yitzhak, il doit se faire un prénom. Un nom, il l'a déjà. Il faut qu'il se fasse un prénom. Rivka, elle n'a pas de nom. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rivka, son chemin, elle le fait sans modèle. Elle n'a pas un modèle paternel, elle n'a pas un modèle familial. Donc, elle invente un chemin, mais elle est libre de l'invention. Elle est très libre dans l'invention. Parce qu'elle a, elle a pas de modèle, elle a que des anti-modèles éventuellement. Mais Yitzhak, il a un très fort modèle. Et c'est difficile pour Yitzhak d'inventer un chemin qui lui soit propre. Quand vous avez un père qui est aussi énorme, si on peut parler comme ça, que Abraham, comment vous faites pour exister, quoi? C'est très difficile. Ça que je voulais dire quand je dis qu'il doit se faire un prénom. La famille, son nom de famille, c'est Abrahamique, ouais. La famille Abraham, comme les enfants disaient, la famille Abraham Avinu. Alors, dans la famille Abraham Avinu, tu aurais bien le fils. Mais un fils. Et donc, c'est ça qu'on veut dire. La prière. Bon, qu'est-ce que c'est, la prière, en fait? La prière, c'est se tenir devant Hachem et parler avec Hachem. Une partie est louange, une partie est demande. Yitzhak Avinu, il a un modèle. On nous a parlé déjà d'Abraham qui était, il est en train de prier devant Hachem quand il a eu l'épisode des trois Arabes là-bas. Donc c'est la prière d'Abraham, c'est quelque chose de très connu. Et lui, il va devoir inventer une prière. Inventer sa façon à lui de prier. Et c'est en ça qu'on veut dire que Enadoma, alors c'est un peu à l'envers, mais Enadoma au sens où c'est pas comparable du tout, en quelque sorte, de devoir inventer une prière qui soit dans le droit fil, mais différente de la prière de son père, ou bien d'inventer une prière, parce que son père, il n'avait pas de prière. C'est en ça que la prière d'Israël est entendue, et pas celle de Rivka. Alors certains disent un peu autre chose. ce qu'on dit aussi pour expliquer pourquoi Rivka était stérile au départ. Et vous vous souvenez quand Rivka est partie de chez elle, son frère Lavan lui a donné une bracha. Il a donné la bracha à Choteinu, Ati, que tu sois des milliers de myriades, etc. C'est une bracha très très complexe. Complexe étant que c'est la bracha que nous aussi on donne à nos enfants, quand, à nos filles quand elles se marient. Ça m'a toujours choqué, quoi. On n'a pas trouvé une bracha meilleure que celle que Lavan, ce menteur, etc. Il a. En tout cas, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des explications. Mais en tout cas, on n'a pas voulu qu'elle soit vraiment tout de suite enceinte, parce qu'on de peur qu'on dise que c'est la bracha de Lavan qui s'est réalisée. C'est pour ça qu'elle est enceinte. Donc on a montré la bracha, elle ne marche pas. Et après, il faut la prière d'Yitzhak, ça vient complètement de l'autre côté. Ça veut dire que c'est sûr que la prière de Rivka, elle a peut-être beaucoup plus de valeur. Mais dans sa prière, parce qu'il y a, y a ce, le bat rachat, quelque part, il y aurait du rachat là-dedans. Et peut-être qu'on Hachem ne voulait pas qu'il y ait cette dimension de rachat. Dans la mesure, il s'agit de construire le clan Israël. C'est pour ça que les Avot sont makpides, par exemple, de ne pas prendre des Cananéennes, parce que Canaan, c'est les maudits et tout ce qu'on veut, mais après, leurs enfants, ils vont prendre des Cananéennes.
Il y a quand même eu Issov.
Pour savoir si les Shvatim, est-ce qu'ils ont épousé leurs sœurs jumelles, ou est-ce qu'ils ont épousé des Cananéennes, les fils de Yaakov. Qu'est-ce qu'ils ont épousé? Ils sont nés avec des jumelles.
Il y a quand même eu Issov.
Oui, il y a
Pas
Essav.
mal.
Pardon?
C'est pas mal.
Non, c'est mal, mais c'est pas. Oui, bien sûr, il y a Essav. Bien sûr, il y a Essav, on va voir, on va en parler de ça.
Pour la rentrée de Lavan, j'ai vu que Ravanel dit que Hachem a mis dans la bouche de Lavan cette bracha qui est comme par hasard presque identique à ce que Hachem a fait à un mot près.
Oui, bah, bon. C'est celle de Lavan qu'on utilise. On aurait pu changer déjà. La vérité, c'est que quand Rivka Bon, alors Rivka s'est trouvée enceinte. Et puis, il se passe avec Rivka quelque chose de. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Rivka, elle est enceinte et elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Ça bouge beaucoup dans son ventre. Et elle interroge les femmes qui ont plus d'expérience qu'elle. Et les femmes lui disent, non, chez nous, on ne connaît pas ça. Alors, Rivka, elle va aller consulter Hachem. Alors, consulter Hachem, ça veut dire consulter, le Rashbam dit, les Nevi'im de l'époque. Rashi dit que le Navi en question, c'était Shem. Shem, le fils de Noach, qui est un Navi, qui est un prophète. Alors, elle va consulter. Qu'est-ce qui se passe, savoir? Et Shem lui dit qu'elle a des jumeaux. Alors c'est quoi cette histoire? Il n'y avait jamais eu de jumeaux avant? Pourquoi les femmes lui disent, ah non, elle a des jumeaux, c'est tout, c'est le problème. Alors j'ai pensé, il n'y a pas de. La Torah ne rapporte pas de naissance de jumeaux avant. Par contre, elle rapporte des naissances des faux jumeaux. Caïn est né avec une jumelle. Evel est née avec deux jumelles. Après, il y a sans arrêt des jumelles. Chaque fois qu'ils naissent, les Shvatim, ils naissent après avec des jumelles. Alors, Yitzhak, il n'est pas avec une jumelle, a priori. Bon, lui, il est spécial. Et Yaakov, bon, il n'est pas avec une jumelle, il est avec un jumeau. C'est la première fois que on pourrait peut-être dire que il y avait des faux jumeaux, des filles et des garçons. Ils ont eu. Mais il n'y avait pas eu encore de jumeaux, deux jumeaux. Et peut-être que deux jumeaux, c'est une nouveauté, c'est ça. C'est ça la différence qu'il y a avec. Parce que sinon, c'est un peu compliqué d'imaginer qu'il n'y avait jamais eu de jumeaux, même si la Torah n'en parle pas. Il n'y avait jamais eu de jumeaux dans ces. Il y a 10 générations jusqu'à. Enfin, mais il y a en tout cas 10 générations entre Noach et Abraham. D'accord? Et donc, un peu plus jusqu'à Yitzhak. Comment se fait-il qu'il n'y ait jamais eu de jumeaux? C'est compliqué. Mais bon, peut-être c'est ça la différence entre des jumeaux, deux garçons, et il y a une concurrence entre deux garçons, tandis qu'en deux jumeaux, un garçon et une fille, il n'y a pas la concurrence qui existe. Alors en fait, il lui dit, il lui annonce des jumeaux. Bon, alors ces jumeaux vont devenir de grands peuples, etc. Bon, on ne va pas entrer maintenant dans le détail. Donc elle sait. Après, Hachem lui a dit, voilà. Et si vous lisez la suite, dans le texte, c'est marqué que va être Tsuabanim, hein, il lui a expliqué, et puis voilà, Inès, c'est que c'est marqué, Veine Tomim, et voici, c'est des jumeaux. Que voici, ça veut dire. Quand on dit, voici, c'est une nouveauté. Voici, c'est toujours, je crois que c'est un des familles, ou Rashi, ou le Rajbam, ou quelqu'un, ou Rajbam, quand on dit Vehine, c'est toujours, il arrive quelque chose qu'on n'attendait pas. On n'attendait pas. Shem lui a dit il y a quelques mois qu'elle était enceinte de jumeaux. Qu'est-ce que ça veut dire Vehine, Tomim? Elle ne l'a pas dit aux gens, peut-être, je ne sais pas. Mais pourquoi la Torah nous dit Tomim? En fait, on peut dire la Torah nous dit Tomim parce que elle écrit Tomim sans Aleph. D'accord? C'est-à-dire que normalement, les jumeaux, ça s'écrit Tomim, Tav, Aleph, Vav, Mem. Et ici, c'est écrit sans Aleph. Tav, Vav. Et ce n'est pas toujours comme ça dans la Torah parce que, comme Rashi dit, plus bas, la Tamar de Yehuda, qui va avoir 2 enfants, 2 garçons aussi, là-bas, ils sont appelés Théomim avec Aleph. Alors, on dit pourquoi il manque le Aleph? Parce que, justement, il y avait un tzadik et un rachat. Donc, on a voulu montrer qu'il y a, il y a un manque dans la gémellité, en quelque sorte. Ils ne sont pas vraiment jumeaux. Parce qu'il y a un tzadik et un rachat. Bon, ça, c'est un peu compliqué parce que, si on est tzadik et rachat, c'est pas déterminé. Donc, ça ne devrait pas être déterminé par la gémellité. Bon, c'est ça que, donc, savoir s'il va être un tzadik, un rachat, c'est pas décidé à la naissance. Il va rester, au ciel avant. Il va être un grand, un petit, un comme intelligent, ou bête, etc. Tout ça, c'est décidé avant. Mais irachamaim, c'est pas décidé. Donc, s'il sera tzadik ou rachat, c'est pas décidé. Par conséquent, pourquoi est-ce que ça devrait se marquer dans les jumeaux? Je sais pas. Donc, les deux naissent. Et la Torah, elle fait un énorme raccourci. Elle nous dit, bon, qu'ils sont tout à fait différents. Mais un énorme raccourci va avec de l'eau à Néharim. Les deux garçons ont grandi. En tout cas, ils sont bar mitzvah, peut-être qu'ils ont même 15 ans. Et à ce moment-là, il s'avère que Yaakov est un Ishtam Yoshev Alim, c'est quelqu'un qui reste dans sa tente pour étudier, Et que Ésaü est au contraire un homme d'action, quelqu'un qui il est dans les champs et il s'affaire, en fait, il domine les gens, pas toujours de la bonne manière, bien sûr. Mais bon, il est très puissant. Et puis, il y a l'épisode de la vente de l'aînesse, du droit d'aînesse. Bon, Jacob était en train de cuire des lentilles parce que c'est le plat qu'on donne à manger en cas de aveloute, en cas de deuil. Et son père est en deuil, Yitzhak est en deuil de la mort d'Abraham. Il avait des lentilles rouges, je ne sais pas s'il y a un sauce tomate ou je ne sais pas quoi. Des lentilles rouges. Et ça, il revient des champs, il est complètement épuisé. Il peut même plus parler. Donc il voit le pot, enfin la marmite dans laquelle il est en train de cuisiner, ou je sais pas. Il dit, donne-moi de ce rouge-là. Il dit même pas, donne-moi à manger. Allez, Téni, charge-moi comme on charge un chapeau. Alors, tu vas me on met un peu noir et déverse. Alors, Jacob lui dit, okay, te donne ça, tu me vends ton droit d'aînesse. Le prix, c'est le plat de lentilles, là. Et ça, lui dit, ce que j'ai à faire des droits d'aînesse.
On peut poser une question?
Ouais, c'est fait, comme toujours. Ouais.
Moi, je
Il
comprends
dit.
pas. On dit que Yaakov et Yoshev allaient, mais là, il est en train de faire de la cuisine.
Quand tu fais la cuisine pour la veloute, ça s'appelle Yoshev Alim aussi. Tout ce qu'on
D'accord.
fait dans Yoshev Alim, ça veut dire qu'il étudie, mais il fait aussi les mitzvot de temps en temps. Là, il y
Oui,
a une
tout à fait.
mitzvah de Nikum Avelim, donc il prépare la nourriture. C'est intéressant que c'est lui qui le fasse, mais peut-être qu'il voulait le faire justement en tant que fils de son père.
Ok,
C'est
merci.
intéressant que ce soit lui. C'est une bonne question parce que celui qui d'ordinaire est aux petits soins pour son père, c'est Esav. On va voir que Esav est un modèle dans la mitzvah Tibboud Avaim. Et là, il n'est pas occupé de ça, quoi. Il s'occupe pas de la veloute de son père. Il est allé, Hazal disent qu'il est allé, qu'il est ce jour-là, il a tué, il a violé, etc. Donc il est fatigué. Et donc il voit pas ce que. On comprend très bien qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que c'est. Alors, Yaakov lui a expliqué ce que c'était. La avoda, etc., c'est vite, c'est dangereux, etc. Il dit, mais moi, je vis dangereusement, bien plus dangereusement que ça. Je veux dire, à la limite, je sais pas du tout combien de temps je vais vivre. Qu'est-ce que j'ai à faire de cette de droit de naissance? J'en ai rien à faire. Donc, à la limite, il pense qu'il a fait même une bonne affaire. Parce qu'il a vendu quelque chose qui vaut rien. Pour un plat de lentilles. Les lentilles, ça coûte peut-être pas tellement cher, mais bon, voilà, il les a eu gratuitement quasiment, parce qu'il a vendu quelque chose qui valait rien. De son point de vue, quoi. Vends-moi aujourd'hui, Yaakov. C'est-à-dire, moi, c'est une façon de dire que ça soit aussi clair que la journée, quoi, de façon absolument claire que c'est une vente qui est claire, c'est pas parce qu'en fait on pourrait dire que Jacob il a profité de l'état de faiblesse d'Esav. Il est complètement affamé, complètement fatigué et tout. Il a profité, il veut manger, il dit ah, il faut payer. Ok, je vais payer, qu'est-ce que tu veux? Droit d'aînesse, ok, d'accord, j'en ai rien à faire. Donc, vous pourrez dire que, alors, non, il dit, je veux une vente en bonne et due forme. C'est-à-dire, prends tes esprits, reprends tes esprits, je t'explique ce que tu vends, si tu sais pas vraiment, etc. Et bon, ceci étant, Kayom, comme, clair comme le jour, quoi. Alors il lui donne, voilà, c'est fait, il a acheté le. Alors il y a un billion de la part des sables qui méprise en fait c'est la avoda qui est liée à la Bechora. En fait, d'être premier né, ça veut dire que c'est celui qui va servir Hachem, a priori. Donc, si on était à l'époque du Mishkan ou du Beth Amikdash, on dirait c'est lui le Cohen. Ben Gadol peut-être même, mais on n'est pas. Donc la avoda en soi c'est un peu compliqué à comprendre, parce que pourquoi lui il aurait plus d'avoda à faire que les autres? Bon, chacun a fait sa avoda. Et pourquoi nous la notion d'avoda est donnée à quelqu'un en particulier, c'est-à-dire au Kohanim. C'est en soi déjà un problème de savoir qu'on ne l'a pas laissé à tout le monde. D'avoir réservé cette chose-là à une partie du clan Israël qui va le faire au nom de tout le clan. Bon, c'est comme ça que ça va se dérouler. Bon, il lui a rendu. Le Rav Hirsch et le Malbim disent tous les deux que Yitzhak et Rivka ont fait une grosse erreur dans l'éducation de leurs enfants. Plus exactement, en particulier dans l'éducation d'Esav. Justement parce qu'ils n'ont pas éduqué Esav, le fils d'Arko. Esav, c'est pas quelqu'un qui peut rester des heures à étudier. C'est un type qui a besoin de bouger, il a besoin de s'activer, etc. Il y a des différentes façons de servir Hachem. Il aurait pu, en théorie, on aurait pu imaginer que, effectivement, Essab serve Hachem, c'est lui qui organise les choses, qui va construire, il va prendre en charge le fonctionnement du peuple juif, en fait, d'une certaine manière, et il va de ce fait décharger Yaakov de ce travail-là, et Yaakov, lui, va faire le travail spirituel, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a élevé Esav. De la même manière, Vaïk de Lou à Néharim, ils disent pourquoi c'est ensemble. On aurait dû dire Vaïkdal Yaakov, Vaïkdal Esav.
Non, mais là, il y a.
Chacun sa manière.
Non, il y a un problème très simple, celui du pouvoir. Il y a une Yerusha. Quand il s'agit d'Issachar et de Zvulun, ce sont deux frères parmi les six frères de Léa. Et de toute façon, ils ne sont pas en tête de liste. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Tandis que pour Esav et pour Yaakov, il y a le problème du pouvoir, et c'est décisif.
Oui, mais c'est l'éducation qu'ils doivent donner, elle doit en tenir compte de ce qu'ils sont, et ce n'est pas seulement du pouvoir. Ah. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ce n'est pas le problème du pouvoir, c'est le problème, tu dois éduquer différemment, tu ne peux pas mettre Esav dans le même Talmud Torah que Yaakov, ce n'est pas possible. Si tu fais ça, qu'est-ce qui va arriver à Esav? Ce qui lui est arrivé, il va tout envoyer promener. Parce que il n'est pas fait pour ça. Donc, il va s'embêter, il va embêter tout le monde dans la classe, et puis ça va le révolter, il va détester ce qu'on lui impose. Alors qu'on aurait pu lui vendre une Torah complètement différente. C'est toujours la Torah, mais lui trouver une place qui correspondent à ce qu'il est. C'est ce que disent Ravir chez le Malbim. Et peut-être d'autres aussi.
Mais il est quand même déjà Edom à la naissance.
Il est Adam, mais là, pas.
C'est pas rien.
Il est rouge. On est d'accord. Il est Edom, mais il n'est pas encore mauvais.
Ah.
D'ailleurs, il n'est pas vraiment complètement mauvais, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire, il n'est pas complètement mauvais. La preuve, c'est qu'il avait une possibilité d'être rattrapé. Lorsque Yaakov va rencontrer Esav, lorsque Yaakov revient de chez Lavan, il rentre en Eretz Israël, et pour des raisons qu'on ne comprend pas vraiment, il est allé chercher Esav. Chazal lui demande, mais qu'est-ce que tu es allé chercher? Quelqu'un qui vient tirer l'oreille du chien, puis après il se plaint que le chien va le mordre. Esav, il était tranquillement en train de se, il faisait son chemin. Il t'aurait même pas vu, si ça se trouve. Et c'est Jacob, je suis là. Chazal n'a pas beaucoup apprécié. Alors, quand il rencontre Esav, il va présenter toute sa famille. Alors, peut-être j'ai oublié de dire une chose. Lorsqu'il était encore chez Lavan, et qu'au moment où Rachel a donné naissance à Yosef, à ce moment-là, Yaakov a dit, maintenant je peux partir, je peux aller affronter Esav. Yosef, c'est celui qui peut affronter Esav. Alors bon, il était un petit garçon à ce moment-là. Et donc, dans le principe, on voit celui qui va devenir, enfin, si vous voulez, raccourci, saisissant, celui qui va devenir Mashiach ben Yosef. C'est lui qui va faire la guerre avec eux. C'est lui qui va affronter les nations. C'est pas le Mashiach seulement. Ramam, il introduit pas le Mashiach ben Yosef, donc il met tout ça sur le Mashiach. Mais la Gemara, elle parle toujours de, si on parle de Mashiach ben Yosef, c'est dans ce sens-là. Donc Yosef, c'est celui qui est capable de faire pièce d'affronter ça. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, Rachel et Léa sont toutes les deux saintes. Et Léa, elle a fait le cheshbon, elle a fait le décompte. Elle a dit, si maintenant, moi, j'ai encore un garçon, d'accord, alors, il n'y aura plus de garçon possible qui soit un enfant de Rachel. Donc Rachel aurait eu un seul garçon. C'est-à-dire moins que les Shfachot, moins que les esclaves, les servantes. Alors, Léa a décidé que si elle était porteuse d'un garçon, elle voulait échanger avec elle, avec Rachel. Elle voulait donner ce garçon, que ce soit Rachel qui mette au monde le garçon, et elle mettra au monde la fille. Et la fille dont Rachel était porteuse, c'est Dina, la fille de David, la fille de Jacob. Donc il y a eu un changement. Comment il a eu lieu, je ne sais pas. Léa, elle savait faire ça, je ne sais pas comment. Ils ont échangé. Elle a mis au monde une fille, et Rachel a mis au monde un deuxième garçon. Et donc, pas un deuxième garçon, elle met au monde un garçon, et il y aurait de la place en plus pour un autre garçon qui sera Binyamin. Mais donc, elle met au monde un garçon. Ce garçon, c'est Yosef. Donc, en fait, Dina et Yosef, c'est un peu la même chose. L'un est masculin et l'autre est féminin. Et c'est un peu la même chose. Donc, Dina, elle a les mêmes caractéristiques que Yosef. Donc, Dina, elle a une capacité d'affronter Esav. quand Yaakov, je reviens à ce que je disais, quand Yaakov a présenté sa famille, il a présenté tout le monde, sauf Dina. Dina, il l'a mise dans un coffre. Il y avait des trous pour l'air, pour respirer, etc. Mais il l'a caché. Il l'a caché parce qu'il ne voulait pas que Esav propose d'épouser Dina. Esav, il pouvait épouser Dina, c'est sa nièce. On peut épouser sa nièce. Yaakov ne voulait pas. On comprend, a priori, un père, il n'a pas tellement envie de donner sa fille en mariage à un Esav. Mais, Hazal dit que si Dina avait épousé Esav, elle aurait pu le faire faire tchouva. Donc, ça veut dire qu'Esav était incapable. Il fallait Dina. Mais Dina pouvait le rattraper. Donc, il n'est pas mal, mais et ça, dans le Zohar, il est appelé Israël Moumar. Il est appelé Israël, qui est le nom de son frère Yaakov, mais Moumar. Un Moumar, c'est un hérétique, c'est quelqu'un qui refuse une, plusieurs ou toutes les mitzvot. Moumar. Donc, il est Moumar, il a refusé les mitzvot. Mais il s'appelle Israël. Et quelqu'un qui est moumar, il peut faire tchouva. Il peut être moumar, bon, et puis faire tchouva. Et comme tout le monde fait tchouva, il peut faire tchouva. Donc, bon, ça c'est une parenthèse pour dire que Esav, effectivement, il est un rachat, mais momentanément, il est un rachat, mais ça ne veut pas dire que c'est pas obligatoirement définitif. Donc, ils l'ont mal éduqué, en fait, c'est une erreur. Ils n'ont pas appliqué la règle que Shlomo HaMelech a énoncée. Bon, évidemment, ils ne la connaissaient pas, mais enfin, bien sûr. Et donc, enfin, c'est ça, ça c'est ça. En fait, ces deux-là, ce sont des jumeaux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont jumeaux? Qu'est-ce que ça veut dire pour leur rôle dans le clan d'Israël? Quelque part, ils doivent avoir un rôle, des rôles complémentaires. Ils doivent former quelque chose de plus que deux personnes étrangères qui font un pacte, qui s'allient, qui décident de travailler ensemble, peu importe. Eux, ils ont quelque chose de particulier qui fait que d'une certaine manière, ils doivent travailler ensemble. Ils devraient travailler ensemble. Certains veulent dire d'ailleurs que d'une certaine façon, Yaakov et Esav, et dans les textes, c'est pas loin d'être ça, que Yaakov et Esav, c'est en fait la même personne. C'est deux aspects de la même personne. Mais pour pouvoir en parler bien, on les a séparés. Mais en fait, c'est une seule et même personne. Alors, on nous dit que Yitzhak aimait Esav, Rivka, elle aimait Yaakov, mais la formulation est un peu étrange. Quand on nous dit que Yitzhak aimait Esav, on dit qu'il aimait Esav Kitsaïd Befil. Pourquoi? Parce que Esav lui donnait à manger du gibier, produit de la chasse. Et Rivka aimait Yaakov sans raison. Il n'y a pas de raison. Alors, il y a beaucoup de pshatim, mais le pshat que je préfère dans cette affaire, je crois que c'est Sforno qui dit que Yaakov aimait Af Esav. Il aimait aussi Yitzhak. Parce que bien sûr que Yitzhak aimait Yaakov. Yaakov était parfait. Et pourquoi il ne l'aimerait pas? Lui, il aimait aussi Esav. C'est ça la nouveauté. Par contre, Rachel, Rivka, elle n'aimait que Yaakov. Elle n'aimait pas. On ne dit pas qu'elle aimait. C'est pas qu'elle était indifférente. Elle était sa mère. Elle va dire que je ne veux pas les perdre les deux ensemble, etc. Bon, c'est son fils aussi. Oui. Mais elle ne peut pas aimer vraiment Esav parce qu'elle sait, elle, Beruch HaKodesh, elle sait qui il est. Esav, c'est quelqu'un qui ne se donne pas à voir comme il est réellement. Quand il est à la maison, chez lui, il honore son père comme la Gemara va dire, personne n'a jamais donné un kibbudav à son père comme Esav le faisait. Esav, il mettait des vêtements royaux pour servir son père. On voit très bien que quand il entre pour lui apporter, il dit que mon père se lève et qu'il mange, etc. Donc, Rachout, il parle au roi en permanence. Et Esav posait des questions à l'Afrique. Alors les gens font toujours ils regardent de façon un peu méprisante les questions de Esav. Esav demandait par exemple il demandait comment est-ce qu'on va prendre Maaser, c'est-à-dire on va prendre la Trumot Maasrot, les Maasrot du sel par exemple, ou de la paille. On ne prend pas, il n'y a pas. Mais quand on réfléchit, ce n'est pas du tout tellement idiot, ce n'est pas si idiot que les gens veulent le faire. Le sel, c'est absolument fondamental. Toute la conservation, entre autres, ne se faisait qu'avec le sel. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas aussi un maaser du sel? Si on veut donner au Cohen des choses pour qu'il puisse les conserver, il faut bien qu'il ait du sel. Pourquoi on ne lui donnerait pas, ou à lui, la Trouma et au Lévi du Maaser, pour conserver les choses qu'on leur donne? Par exemple, la paille, bien sûr que la paille, c'est jamais que de la paille, mais premièrement, toutes les litières sont en paille, et puis la paille, c'est quand même ce qui permet qu'on puisse manger le blé, parce que si le blé était au ras de terre, bien il serait bouffé par tous les rongeurs. Donc, qu'est-ce qui fait que le blé échappe un peu aux rongeurs? C'est parce qu'il est en hauteur. C'est grâce à la paille. Et à part la paille, on voit très bien que c'est très important. Ça va faire le fameux fumier, etc. Donc, en réalité, ce n'est pas du tout idiot de poser la question. C'est simplement, pourquoi est-ce qu'on se contenterait des choses directement consommables pour prendre Maaser? On peut prendre aussi de ce qui est au service de la nourriture, qui est un passage obligé pour la nourriture, que là aussi, on peut en prendre Maaser. Alors ça faisait partie de la ruse de la ruse d'Essav. Essav, pour lui, il était très important que son père ait une bonne image de lui. On va voir après qu'il va faire une maladie du fait qu'on lui a pris la bracha de son père. On a du mal à imaginer quelqu'un qui se fiche de tout, d'accord? Qu'est-ce que ça vient de faire? Qu'est-ce que c'est une bracha? Une bracha, c'est quoi? Il pleure à son père quand on lui a pris. Voilà. Alors, Yitzhak Avinu, il pensait que les deux devaient travailler ensemble. Il pensait qu'ils allaient pouvoir travailler ensemble. De façon idéale, comme je vous ai dit avant, et ça va s'occuper de toute l'intendance, il va faire rayonner, il va imposer la Torah, etc., parce qu'il était violent, parce que, ok. Et puis, il va, et Yaakov va l'étudier, il va apporter le côté spirituel, et ils vont partager les bénéfices, ça veut dire, et ça, il va nourrir Yaakov, et Yaakov va donner une part de sa spiritualité, de son enseignement, etc., de son étude, pardon, à son frère. Donc, l'unité va être réalisée entre ces deux-là. À eux deux, ils font tout ce qu'il faut, quoi. Olamazé et Olamaba. Et ça ne s'est pas fait. Ça n'a pas marché. Ça s'est fait partiellement, comme disait M. Kahn, entre Issachar et Zvouloun. Eux, ils vont le faire. Mais c'est à toute petite échelle, entre deux tribus. Et Yitzhak voulait que ça se fasse à l'échelle de tout le clan d'Israël. Et ça avait Yaakov. C'est-à-dire, toute l'histoire, toute l'humanité en quelque sorte. Et ça va faire le job pour les Bnei Israël. Et les Bnei Israël vont garantir la spiritualité de cette, le lien avec Hachem de cette humanité. C'est bien ce qu'on veut pour la fin des temps. C'est bien de ça qu'il s'agit. C'est bien Melachan Asita les Acherim, qui est-ce qui c'est les Acherim qui vont vouloir. Les gens qui ont compris l'importance. Et Esav, il avait une tête extraordinaire. N'oubliez pas, la tête d'Esav, elle est dans Maratha Martella. Elle a roulé directement quand Hushin Ben Dan lui a coupé la tête, au moment de l'enterrement de Yaakov. Il a coupé la tête d'Esav parce que il ne voyait pas comme pourquoi ce type-là, il empêchait que son grand-père soit enterré. Comme il était muet, il n'a pas vraiment compris, il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, donc il a réglé le problème de sa manière. Mais la tête, elle a roulé d'elle-même, donc elle est s'installer dans Maratha Marpella. Dans Maratha Marpella, il y a Adam et Chava, il y a Avram et Sarah, il y a Yitzhak et Rivka, il y a Yaakov et Léa, et la tête des sables. Si elle est là-bas, c'est qu'elle doit y être. C'est-à-dire que sa tête était magnifique. Seulement, sa tête ne gouvernait pas le corps. C'est le corps qui gouvernait la tête. La tête était extraordinaire. La tête, c'était sûrement la même tête que Yaakov. Donc, le projet d'Yitzhak était un projet magnifique. Pourquoi est-ce que Rivka s'est opposée à ce projet? Parce qu'elle savait que Esav ne jouerait pas le rôle que Yitzhak voudrait qu'il joue. Si on avance encore un peu et qu'on regarde ce qui se passe au moment des brachot, qu'est-ce qui se passe dans les brachot? Yitzhak va donner à Esav une bracha. Nous, on la considère, c'est scandaleux, quoi, que ça va donner une bracha à Esav. La bracha, il faut la donner à Yaakov, mais pas du tout. Dans le projet d'Israël, la bracha qu'il a donnée, finalement, à Yaakov, c'est une bracha complètement matérielle. Il n'y a pas trace de spiritualité dans ce qui est cette bracha. C'est entièrement matériel. Donc, il donne cette bracha matérielle à Esav, puisque c'est Esav qui va s'occuper du matériel dans le couple. Les deux, là, il faut lui donner la possibilité de jouer son rôle au maximum. Il faut lui donner la bracha matérielle. Et Yitzhak, Yaakov, il n'a pas besoin de ça. C'est Esav qui va développer tout ça. Il n'a pas besoin d'une bracha comme celle-là. C'est juste que, en plus, probablement que Yitzhak pense que Yaakov, il n'est pas équipé pour s'occuper de ces choses-là. Il est dans sa tour d'ivoire, il est dans son étude, dans sa tour d'ivoire éventuellement, dans sa tente à étudier. Il ne connaît pas, pour lui, Yaakov. Il est, a priori, Yitzhak pense, parce que lui, il est comme ça aussi, il pense que Yaakov, il ne pourra pas faire face dans le monde, à la roublardise, à la trans... Les gens, concrètement, ils ne sont pas toujours sympas. Ils pensaient que Yaakov, il n'est pas capable de mentir quand il faut mentir, c'est le cas échéant. Certains disent que justement, quand Esav arrive chez Yitzhak, avec le gibier, et qu'il lui dit, voilà, que mon père, son avait mangé ça, il a préparé les choses comme son père lui a demandé, et son père lui dit, mais j'ai déjà donné la bracha. Et à ce moment-là, ils comprennent, tous les deux comprennent ce qui s'est passé. Alors certains veulent dire, vous savez, normalement, si Yaakov avait eu l'impression, si Yitzhak avait eu l'impression d'avoir été trompé par Yaakov, il aurait dû le maudire, c'est tout. Donner une bracha, c'est une erreur, je la retire et je donne le contraire. Qu'est-ce qu'il dit à Yitzhak? Il dit Gamba Ochi. C'est bien. C'est bien qu'il soit béni. Certains veulent dire, là maintenant, comment est-ce que Esav a compris, comment est-ce qu'Yitzhak dit, comment est-ce que Yitzhak comprend qu'il s'est trompé, que ce n'est pas jouable? Rivka avait raison, enfin, il ne sait pas, je ne sais pas s'il sait, mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il s'est trompé, que Yaakov est tout à fait capable de le tromper. Yaakov est capable de raconter les mensonges. Dans ce cas-là, on peut lui donner cette bracha. Il saura quoi faire dans le monde. Il pensait qu'il était incapable de mentir, le Kaïché. Non, il peut, il l'a fait, voilà. Il m'a roulé, il m'a trompé. C'est pas tout à fait complet, parce que il l'a pas fait de sa propre initiative. D'accord? Elle savait comment on peut tromper, etc. C'est celle qui, elle vient d'une maison où c'était ce qu'on faisait tous les jours. Elle savait. Mais elle l'a fait parce que, Roi HaKodesh, elle a compris, et c'est ce que tout le monde explique, que si jamais les brachot étaient arrivés chez Esav, le plan Israël n'aurait pas pu exister. Parce qu'Esav, il aurait eu toutes les brachot de la terre, il n'aurait rien donné à Yaakov, et Yaakov, il serait mort. Et donc, qu'il ait eu ces brachot qui sont complètement matériels, quand il voudra donner, la preuve c'est qu'il ne lui en voudra pas, Yitzhak, c'est que quand il va partir, il va lui donner la bracha d'Abraham. La bracha spirituelle, il a toujours voulu la lui donner à lui. Mais il pensait que la bracha matérielle, il fallait la donner à Esav pour que Esav puisse jouer son rôle. Mais Rivka, elle savait, Baruch HaKodesh, que Esav allait garder les choses, que Esav va même l'utiliser, la bracha matérielle, contre Yaakov. C'est pour ça qu'elle a agi de telle sorte que ce soit Yaakov qui est la bracha, qui reçoive cette bracha matérielle. En soi, c'est pas tellement compréhensible. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une bracha qu'on a obtenue par la ruse? Ça ne s'adressait pas à lui. À quoi ça sert d'avoir une bracha pareille? Ça ne s'adresse pas à lui. Alors la vérité, c'est effectivement, cette bracha, elle ne s'adresse pas à lui au moment où il la donne. Mais après, comme je vous ai dit, Yitzhak qui dit « Gambaruch » on sait bien. Cette bracha, je l'ai donnée par erreur. Maintenant, je confirme la bracha. Je la lui donne vraiment. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Alors, le clan Israël, il ne va pas fonctionner comme ça avec Esav. Esav et Omota Olam, ils vont mettre des bâtons dans les roues des Israël. Au lieu de les... Donc c'est repoussé à on ne sait pas quand que les Goïm vont reconnaître qu'Israël a raison et ils voudront en être aussi. Ok, alors nous, on va aussi en être. La question de savoir comment ça peut se passer à la fin des temps, bien qu'on ne puisse rien dire là-dessus, mais comment ça peut marcher? Les Bnei Israël sont censés s'occuper d'étudier, c'est tout. Un juif, il est fait pour étudier, pas fait pour autre chose. Donc, s'ils étudient, mais ils vont vivre de quoi? Ils vont vivre de ce que les autres vont leur donner. Et comment, pourquoi les autres vont leur donner? Parce que ils auront compris qu'il fallait reconnaître Hachem, qu'il fallait pratiquer la Torah, etc. Mais eux, ils vont pas pratiquer obligatoirement la Torah. Ils vont pratiquer, a priori, les Sheva Mitzvot des Bnei Noach. Et puis, ils vont aider les Bnei Israël. Ils voudront en être. Quelqu'un qui comprend que ça, c'est le truc qu'il faut, il voudra en être. Comme il existe des endroits où il y a des gens qui veulent absolument faire un don à une yeshiva ou à quelqu'un ou subvenir aux besoins d'un Talmid Racham, ça. Ils ont compris que c'est fondamental. Je veux en être. C'est pas du tout que je me fais pas violence pour le faire. Au contraire, je veux en être. C'est comme ça qu'on doit, c'est ça qu'il faut comprendre. On est dans un monde pour faire ces choses-là. Donc, je veux en être. Eux aussi voudront en être. Ils comprendront que leur façon à eux d'en être, d'être de la partie en quelque sorte, c'est justement de prendre en charge le côté matériel. Et qu'est-ce que ce sera vraiment le côté matériel, autant messianique ou plus tard, je ne sais pas, on n'a aucune idée. Mais bon, pas dit du tout que ce sera exactement comme maintenant. On ne sait rien. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que je vous ai dit, quand Esav a pris conscience, a compris ce qui lui était arrivé, il a poussé un cri. Ça lui a fait terriblement mal. Qui est la cause de ce mal? C'est Yaakov. Bien sûr, Yaakov a fait les choses qui devaient être faites. Mais il a fait mal à Esav. Il va le payer toute sa vie. Toute la suite de la vie de Yaakov, c'est qu'il est soumis sans arrêt à des couvaches. Bon. La première chose, il se met en marche. Il est rattrapé par Eliphaz, il le dépouille. Bon, il est dépouillé par Eliphaz. Vous vous souvenez, Yaakov est parti, il s'est enfui, et ça va donner l'ordre à son fils Eliphaz, rattrape le tonton Yaakov et tue-le. Alors Eliphaz, chez Esav, on rigolait pas avec la mitzvah qui bouda vrem. Bon. Bon, il va faire ce que son père lui a ordonné de faire. Il faut savoir, c'est que Esav, quand il a cherché un rébé pour son fils Eliphaz, qui l'a pris? Yaakov. Eliphaz, il est l'élève de Yaakov. Le fils d'Esav est l'élève de Yaakov. Et donc Eliphaz est parti, il a rattrapé Yaakov. Yaakov lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis venu pour te tuer. Bon, si c'est moi qui avais écrit le scénario, j'aurais terminé en disant que Yaakov est très très fort, on voit très bien par la suite. Bah, il va simplement empêcher Eliphaz, ou bien il va tuer Eliphaz en légitime défense. Bon, en tout cas, il l'empêchera de le tuer. Mais le scénariste principal, il a décidé autrement. Le scénario n'est pas comme ça. Le scénario, c'est que Yaakov dit à Eliphaz, il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un. On peut être mort de plusieurs manières. On peut être mort physiquement, on peut être mort économiquement, on peut être mort socialement. Un pauvre, il est économiquement mort. Un aveugle ou bien un metzora, il est socialement mort. Tue-moi économiquement. Tu me dépouilles complètement. J'ai plus rien. Tu m'as tué économiquement. Tu pourras rentrer chez ton père et dire que tu m'as tué. Et ça, on voit nulle part que ça avait dit à Eliphaz, j'aurais voulu que tu le tues physiquement. Il a très bien compris, ça suffit. Et ça, c'est aussi quelqu'un de, il sait très bien que qu'un pauvre, il est chachouf que met. Il est comme un mort. Voilà ce qui se passe. Et du coup, maintenant, Yaakov, il a plus rien. Il arrive chez Laban. Il travaille 7 ans pour Rachel, on lui donne Léa. Et ensuite, il travaille pour acquérir des troupeaux, etc. Et Laban, il change sans arrêt les contrats. Donc, il ne le paye jamais. Ensuite, il va avoir un problème. Il va avoir toutes sortes de problèmes. Il va avoir le problème de Dina, qui est violée. Il a une seule fille, elle est violée par un goy. Après, il y a le problème de Yosef. Yaakov va être trompé par ses propres enfants. Les enfants se mettent ensemble pour le rouler. Ils le trompent. Après, ultimement, il faut qu'il descende en Égypte. Il n'a pas envie d'y aller, il est obligé de descendre en Égypte. Donc toute sa vie, il va être victime. Tu as fait souffrir, on va te faire souffrir. Et pas seulement lui, des générations après lui, centaines d'années après lui. Quand Aman prend son décret de destruction totale du clan d'Israël. Dans le passage que c'est marqué, sujet de Mordechai, marqué Vaizak Zeokov Dola Admeot, ou non Dola ou Mora. Il a crié un énorme cri d'amertume. Il apprend. Il y a un projet, on ne voit pas très bien comment on pourrait s'y opposer. Un projet de destruction complète du clan d'Israël, hommes, femmes, enfants, c'est le même jour. Il n'y a que 2 occurrences dans tout le Tanakh de cette expression Zaaka Gdola Umara, un cri énorme et amer. Il n'existe que 2 fois dans tout. Cette expression-là, elle existe 2 fois dans la Torah. Non, pas dans la Torah, mais dans le Tanakh. C'est quoi? Une fois, c'est Pessah, et la deuxième fois, c'est Mordechai. Les gens disent, pourquoi est-ce que Mordechai a poussé ce cri-là? C'est le prix à payer pour avoir fait souffrir Pessah de cette manière-là. Donc là, Israël aussi, de souffrir de cette manière-là. Parce que le cri de Mordechai, c'est en fait le cri de tous ceux qui vont apprendre cette chose-là, apprendre la solution finale du clan d'Israël. À ce moment, quand ils l'apprennent, ils ne savent pas que ça ne va pas se réaliser. Donc, on a cette leçon terrible que quel que soit le bien fondé de ce qu'on fait, si on fait souffrir quelqu'un, ça se paye. Et ça, c'est assez terrible. Alors, le grand exemple de ça, c'est Pnina avec Hana. Bon, la co-épouse de Hana, s'appelle Pnina. Elle a fait souffrir Hana. Hana n'avait pas d'enfant, elle voulait un enfant. Elle voulait des enfants. Et Pnina avait des enfants. Et Pnina, elle a compris que Hana était une grande dame et qu'elle était capable de très grandes choses. Donc elle l'a poussée dans ses derniers retranchements pour que Hana fasse quelque chose d'énorme. Elle a inventé, Hana, la façon dont nous prions encore aujourd'hui. Si nous prions comme nous prions la Amida, ça a été inventé par Hana. Jusque-là, on n'a jamais prié comme ça, on priait toujours en criant, etc. Elle prie à voix basse, elle marmonne, semble-t-il, au point que le Kohen Gadol, à ce moment-là, il la prend pour une souillon. Et il l'envoie cuver son vin ailleurs. Elle lui explique que non, je ne suis pas du tout une souillon comme tu crois. Je prie. Et sa prière là, et Pnina a obtenu ce résultat extraordinaire, elle va avoir son enfant, Shmuel c'est aussi grand que Moshe et Aaron, hein. C'est pas rien, Shmuel un habit. Et en même temps, elle invente la forme de la prière qui est encore une autre forme de prière à nous encore aujourd'hui. Tout le clan d'Israël prie sur le modèle de la prière inventée par Hana à ce moment-là. Grâce à qui? À la pression de Pnina. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que Hana a un enfant, elle va avoir plusieurs enfants, Pnina en perd un. Elle est punie pour avoir fait souffrir Hana. Elle l'a pas fait souffrir pour le plaisir de souffrir, elle a compris pendant qui elle était, et elle a compris qu'il fallait obliger Hana à se sortir les tripes, parce que voilà, c'était ça le prix pour avoir un enfant. Mais bon, elle l'a fait souffrir. Toutes les années, quand ils allaient à Shiloh, ils allaient, à ce moment-là, c'était le Beth-Amigdash d'alors, Mishkan d'alors. Alors, on mangeait des corbanotes, comme un Pessah, etc. Et puis, alors, son mari donnait à Pnina une portion pour elle et pour chacun des enfants. Et puis, à Hana, il n'y avait qu'une seule portion. Et son mari, il a dit quelque chose d'assez gigantesque. Il se demandait, est-ce que quelqu'un aujourd'hui pourrait dire une chose pareille? Il lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu veux absolument un enfant? Est-ce que je ne suis pas pour toi plus qu'une dizaine d'enfants? Il est sûr qu'il est au petit soin pour elle, il s'occupe d'elle, etc. Il lui dit, mais tu as tout l'amour que tu peux avoir, tu n'as pas besoin d'un enfant. Hachem ne t'envoie pas un enfant, tu n'as pas un enfant. Elle veut un enfant. Il dit, je veux un enfant, et d'ailleurs, dès que j'aurai un enfant, je le donnerai à Hachem. Dès qu'elle a eu cet enfant, dès qu'il a été sevré, elle l'a donné, elle l'a mis au service, elle l'a mis au Beth-Amigdash, enfin, c'est pas encore au Beth-Amigdash à ce moment-là, au Mishkan, et il va devenir un prophète, il va devenir le grand prophète, le prophète qui a ouin Shaoul, David, le prophète Shmuel. On dit dans la tfila, dans les oui, vendredi soir, on dit Moshe, Aaron de Rohana, Shmuel de Koreshemo. sont sur le même plan. Moshe Rabbeinu en permanence, parce qu'il pouvait parler avec Hachem. Aaron, parce qu'il dit le Shem Hachem. Un jour, dans le Kodesh HaKodashim, à Kippour. Et Shmuel, Hachem lui parle, il parle, parce que Shmuel, quand il était encore jeune, il dormait dans une chambre annexe du Mishkan, et tout à coup, il se lève, il va chez Eli, qui est le Kohen Gadol à ce moment-là, il lui dit, tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Il retourne, et de nouveau, il entend qu'on l'appelle. En fait, c'est Hachem qui l'appelle. Hachem lui parle par sa propre bouche. Et donc, il ne reconnaît pas, il ne connaît pas ça. Il ne s'est jamais entendu de cette manière-là. D'accord? Et donc, Hachem, donc, le Koré Shemo, quand Hachem l'appelle, il l'appelle, c'est tous des gens. On dit que quand Aaron disait le Shem Hachem dans Akipour, c'est pas Aaron qui parlait. La Shrina qui parle par la bouche de d'Aaron. C'est ça le point commun des trois. Hachem parle par la bouche de Shmuel, parle par la bouche d'Aaron, et parle par la bouche de Moshe Rabbeinu. Donc, vous imaginez Shmuel, elle n'a pas seulement donné naissance à Shmuel, elle a aussi donné naissance à d'autres enfants, mais aussi à la prière, toute la prière du clan Israël, toutes ces années, toujours. On prie comme elle a la prière, telle qu'elle a été inventée par Hana. Et grâce aux pressions de Pnina, a priori. Après, je me levais, il parle de ça dans les sirotes. C'est terrible, quoi. C'est absolument terrible. Et là aussi, Yaakov aussi, et puis tout ce reste, c'est bien incroyable. Et bon, je sais pas. Peut-être des gens qui sont à un niveau tel, quelque part, ils sont très très élevés, peut-être, à ce niveau-là. Quelque chose comme la Midat Hadin qui ne laisse rien passer. Rien ne passe. Laisse rien passer. Voilà. Cette Midat Hadin, c'est la Midat d'Yitzhak. Mais bon, son fils, Yaakov, quelque part, il n'a pas la Midat Hadin, lui, il fait la synthèse entre le Din et le Chesed, de son père et de son grand-père, mais dans sa vie, visiblement, la Midat Hadin, voilà, on s'arrête là.